Il est 18h14 et vous écoutez le Grand Journal du soir sur Europe 1. Ce soir, justement, pour honorer la mémoire de ces 136 femmes mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année, Wendy Bouchard, vous accueillez une femme de loi.
Absolument. Bonsoir Emmanuel Rivier.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous êtes madame avocate au barreau de Paris, spécialiste des violences conjugales. On vient d'entendre dans le journal, par la voix de Marion Gauthier, ces nouveaux chiffres qui nous ont fait d'ailleurs sursauter toute la journée, issus d'un rapport de mission sur les homicides conjugaux. Je vais commencer par celui-ci. Dans 40% des féminicides, des homicides, la victime avait déjà signalé ses violences aux forces de l'ordre, sans pour avoir autant porté plainte. Il s'agissait parfois de main courante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, maître Rivier?
Si vous permettez, je vais commencer par une remarque d'ordre général.
Oui.
Ce rapport parle d'homicides conjugaux, bon, c'est normal, il est écrit par des juristes, mais à aucun moment je n'entends Nicole Belloubet dans son interview au JDD prononcer le terme de féminicide. Alors que dans le rapport, on lit qu'il y a 85% des auteurs qui sont des hommes et 83% des victimes qui sont des femmes. Je pense qu'en politique, il faut appeler un chat quand on veut faire bouger les choses.
Oui, contrairement à ce qu'elle dit, vous militez pour l'inscription du terme précisément dans la loi aujourd'hui, féminicide.
Pas nécessairement, non, mais politiquement, ce terme est très important parce que sinon, on ne comprend pas qu'on est en fait dans un système d'inégalité femmes-hommes et les violences, c'est le continuum et c'est à ça qu'il faut s'attaquer d'abord.
Très bien, merci pour cette remarque d'abord. Je vous renvoie sur ce chiffre des 40%, donc on va dire, de féminicides. La victime avait déjà signalé ses violences aux forces de l'ordre. Il y a un défaut de traitement judiciaire pour en arriver là?
Alors, il y a en fait, ça part avant le traitement judiciaire. Je pense que le premier problème, d'après ce que j'ai pu constater, c'est l'enquête.
Mmh.
C'est-à-dire que quand les plaintes sont prises, ce qui est rarement, ce qui est loin d'être toujours le cas, hein, d'après mes propres statistiques, c'est une fois sur deux en fait hein, qu'un refus de plainte. Quand les plaintes sont prises, les enquêtes ne sont pas bien menées. Et là, je ne mets pas du tout en cause la compétence et le dévouement des forces de police. Simplement, ils sont en nombre tout à fait insuffisant et ils ne sont pas assez formés. Donc les enquêtes ne sont pas assez complètes. Donc c'est ce qui fait qu'on aboutit à des classements sans suite ou à des sous-qualifications. Ensuite, quand ça arrive en justice,
oui,
il y a un problème de preuve, il y a un problème de formation des magistrats, il y a un problème d'écoute de la victime et là aussi il y a un problème de formation et de sous-effectif.
80% des plaintes transmises au parquet classées sans suite, ça veut dire aussi que les preuves parfois sont insuffisantes et que la loi peut-être doit évoluer dans cet accompagnement des victimes, pour vous, maître Rivier?
Alors, avant de faire évoluer la loi, il faudrait
déjà appliquer l'actuel.
Déjà appliquer l'actuel, former les professionnels et donner les moyens. Le problème, c'est que les violences conjugales se passent le plus souvent dans un huis clos.
Mmh.
Et dans ce huis clos, il n'y a pas de témoins. Et quand il y a des témoins, les auteurs, qui sont souvent des hommes assez intelligents et assez fins, donnent un tout autre visage. Donc, c'est par un faisceau d'indices qu'on va pouvoir démontrer l'existence des violences. Et donc, ça nécessite des enquêtes minutieuses, longues, comme celle qui a été menée pour Adèle Haenel, par exemple.
Oui, expliquez-nous. Adèle Haenel, c'est à peu près un peu moins d'un an d'enquête, mais une enquête qui aboutit.
Sept mois
d'enquête, voilà. Une enquête qui aboutit à faire toute la vérité. Je voudrais vous citer un exemple qu'avance Nicole Belloubet dans le JDD aujourd'hui, ce qui se fait à l'hôpital de Dax. Les médecins qui amènent les victimes à verbaliser, qui ne les laissent pas repartir sans qu'une association ne les accompagne. Est-ce que c'est un modèle d'abord à développer, maître Emmanuel Rivier, développer aussi, pourquoi pas, la possibilité pour une femme de porter plainte dans l'enceinte de l'hôpital?
Alors, le modèle de Dax, oui, il est tout à fait à développer, même si là j'émets une grosse réserve sur cette phrase de Nicole Belloubet, les victimes avouent rarement. Bon, les victimes ne sont jamais coupables, donc elles n'ont rien à avouer, mais le silence tue. Et la première chose pour pouvoir prévenir et remédier aux violences conjugales, c'est effectivement de permettre aux victimes de briser le silence. Et pour ça, il faut poser la question et il faut un personnel qui soit formé pour savoir, quand la réponse est oui, comment se comporter et orienter vers un réseau. Et ce qui se passe à Dax, si j'ai bien compris, c'est que les personnes qui sont détectées comme victimes de violences conjugales sont systématiquement orientées vers des associations d'accompagnement aux victimes. Et ça, oui, c'est une très bonne chose. Il faudrait que ça soit généralisé et pas seulement dans les hôpitaux, en fait, parce qu'il faudrait que partout dans sa vie, à chaque moment de sa vie, la question soit posée et que le jour où elle est prête à répondre et à briser le silence qui fait partie du système de la violence, il y a quelqu'un pour l'écouter, l'orienter et l'accompagner. C'est vraiment le premier pas.
On parlait des médecins à l'instant, Emmanuel Rivier. Le rapport évoque la rupture du secret médical. La ministre de la Justice, il semble désormais favorable. Si c'est une possibilité offerte d'un dialogue, j'allais dire volontaire de la part de la victime, vous y êtes aussi favorable ?
Si c'est volontaire de la part de la victime, bien évidemment. Par contre, ce n'est pas ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est y compris sans l'avis de la victime. Et ça me semble problématique parce que le médecin, c'est quelqu'un de confiance. Mmh. Et est-ce que la victime va oser se confier à son médecin si elle sait qu'à tout moment il peut signaler, alors que dans un premier temps, la plupart des victimes sont absolument terrorisées par l'idée de porter plainte pour tout un tas de raisons. Donc, je ne suis pas favorable à ce que le médecin puisse signaler sans l'avis de la victime, même si le sujet est compliqué. Le sujet est compliqué. Je pense que sur ce terrain-là, ce qu'il faudrait développer, c'est plutôt que les médecins attestent, quand on leur demande, de ce que la victime leur a confié, parfois depuis des années. Parce que ça fait partie du faisceau d'amis.
Oui, et or, certains parétiques ne disent rien face à une réalité qui est criante. Et vous avez plusieurs cas.
D'attester de ce qui a été livré dans le cabinet médical en se retranchant derrière le secret médical et des directives dont je n'ai jamais eu connaissance, mais de l'ordre des médecins. Et ça, ça devrait être brisé. De même que beaucoup de personnels enseignants, parce que c'est les directives qui leur ont été données, refusent d'attester de ce qu'on peut leur dire les enfants, mmh. qui sont malheureusement témoins et exposés aux violences conjugales, refusent d'attester de ce qu'ils ont pu constater par eux-mêmes, parce que c'est le devoir de réserve.
On avance pas à pas et j'interrogerai sur les mesures d'éloignement, notamment parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, Emmanuel Rivier. À 19h30, l'ancienne ministre en charge de ce dossier en particulier, Laurence Rossignol, qui est aujourd'hui sénatrice de l'Oise. Merci beaucoup Emmanuel Rivier.
Merci à vous.
Spécialiste des violences conjugales. Merci.